nous avons déjà examiné toute une série de sujets bibliques à cet égard. La dernière fois, nous avons considéré ce qu'il en était du règne de Jésus-Christ, du règne de Dieu et de Jésus-Christ, spécialement de la question dite du millénium. Je voudrais signaler, sans revenir maintenant sur ce sujet, mais signaler que je voulais mentionner un mémoire sur l'interprétation du chapitre 20 de l'Apocalypse, qui pourrait intéresser ceux qui veulent fouiller davantage le sujet parmi vous, par notre frère M. Thierry Press. M. Thierry Press, donc, qui fréquente notre Église, et a rédigé son mémoire de maîtrise en théologie sur ce chapitre. Il a fait un gros et bon mémoire, alors je vous le signale, en addition, en post-scriptum de l'étude de la dernière fois. Mais aujourd'hui, comme il a été annoncé, nous considérons la doctrine de l'état intermédiaire entre la mort du corps, la première mort, et la résurrection. Nous allons lire un passage de l'Écriture parmi plusieurs sur lesquels nous reviendrons. Mais auparavant, nous demandons au Seigneur de nous conduire, de nous guider dans cette étude. Est-ce que Mademoiselle Véronique Jean-Charles voudrait nous conduire dans la prière ? Nous lisons donc l'Écriture sainte dans un passage qui est un passage clé pour le sujet, dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, à partir du chapitre 4 et du verset 16. Donc, seconde aux Corinthiens, 4, 16, et je lirai jusqu'au verset 10 du chapitre suivant, donc jusqu'à 5, 10. Je ferai éventuellement une ou deux remarques de traduction, mais je lis dans la Bible à la Colombe. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme intérieur se détruit, notre corps se délabre toujours plus ou moins, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Ça, c'est une traduction qui est contestée, qui n'est pas la seule traduction possible de l'original, n'est-ce pas ? Vous savez que notre Bible est traduite de la langue que Dieu avait choisie pour donner sa parole aux hommes. Elle est traduite du grec. Et ici, l'idée de revêtir par-dessus l'autre n'est pas nécessairement dans les mots du grec. Certains l'y voient, d'autres ne l'y voient pas. Moi, je ne verrai pas cette idée. Donc, il ne s'agit pas de revêtir par-dessus l'autre, mais de revêtir pleinement, simplement. Le verbe grec peut se traduire de cette façon. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir pleinement notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, là aussi, au lieu de « si du moins » qui semble impliquer un doute, je crois, avec un certain nombre de commentateurs et de spécialistes, qu'il faut plutôt traduire « puisque nous serons trouvés nus et non pas nus ». Si, comme c'est le cas, nous sommes trouvés au terme vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions, sous-entendu, dans le corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. jusque-là notre lecture. Au lieu de parler de l'état intermédiaire, ce qui est un peu sibyllin pour le grand public, nous pourrions dire que notre sujet, c'est celui pour lequel tout le monde s'interroge, qui correspond non seulement à la curiosité de tout individu du genre humain, mais même à son angoisse secrète. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Dans quelles conditions se trouvent les trépassés? Qu'y a-t-il après le franchissement du voile, pour parler un langage que l'Épître aux Hébreux utilise, parlant du voile pour ce terme de notre vie? Cette doctrine, parmi l'ensemble des doctrines sur les choses à venir, touche un point névralgique de nos préoccupations les plus intimes et celles de tout être humain. Dans cette situation, il est d'ailleurs surprenant que la Bible en parle avec tant de discrétion. En fait, c'est le sujet principal de beaucoup de religions. Vous avez des théories très insistantes et très développées sur les voyages dans l'au-delà, par exemple dans la religion égyptienne, dans beaucoup de religions, et certains considèrent que la peur de la mort et le désir de savoir ce qu'il y a au-delà est un ressort principal de la religion en général. Or, il nous faut reconnaître que la Bible n'en parle pas beaucoup. Que dans l'Ancien Testament, le sujet est comme encore environné de brume. Je ne crois pas du tout qu'il faille dire, comme certains l'ont prétendu, que pour la Bible, il n'y a rien qui subsiste après la mort, que la foi de l'Ancien Testament ignore l'idée d'une existence post-mortem avec certaines caractéristiques. Et il y a suffisamment de textes pour prouver le contraire. Si vous voulez, dans le débat tout à l'heure, nous pourrons y revenir. Mais que des gens sérieux, aient pu prétendre qu'il n'y a rien, montre que les choses restent quand même assez vagues. Le séjour des morts, dont il est question dans l'Ancien Testament, Sheol, nous est présenté parfois avec quelques images, mais on se rend bien compte qu'il ne s'agit que d'images, et autrement, sans beaucoup de précision. C'est presque l'équivalent de notre expression « la tombe ». La tombe, non pas une tombe précise dans un cimetière donné, mais la tombe, l'état de mort. Et au-delà, on n'en sait pratiquement rien, en tout cas très peu. Dans l'Ancien Testament, contrairement à ce qui était le cas dans les pays avoisinants, dans les religions des païens, il y a peu de révélations sur l'après la mort. Et dans le Nouveau Testament, s'il y a nettement davantage, s'il y a quelques passages qui sont tout à fait nets, à mon avis, il faut reconnaître que ce n'est pas un sujet de premier rang. Et que pour cette raison même, d'ailleurs, de grands docteurs évangéliques n'ont pas eu exactement le même avis. Je vous donnerai celui qui a été largement majoritaire, et que je crois quand même sûr, je vous le propose comme tel. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas été reconnu unanimement, cet enseignement du Nouveau Testament, parce qu'il y a assez peu de passages vraiment consacrés spécifiquement à ce sujet. Pourquoi en est-il ainsi? Si l'angoisse par laquelle le prince de ce monde tient captif tous les humains, comme dit l'Épître aux Hébreux, suscite à ce point la question de l'au-delà de la mort, pourquoi la Bible y répond-elle avec une telle retenue? Je crois que c'est significatif, qu'il nous faut comprendre cela pour commencer. Je suggère que la raison en est la suivante, c'est parce que pour la Bible, la réalité de la mort est à prendre au sérieux. La mort est le dernier ennemi, dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. C'est une réalité puissante, lourde, qu'il ne faut pas minimiser ou fleurir à la manière de certains mystiques. Moi, je pense même à saint François d'Assise, qu'on admire tant, et avec raison, pour sa manière de vivre. Il chante notre sœur la mort, il parle de la mort comme d'une amie, mais pas la Bible. La Bible ne le fait pas. La Bible parle de la mort comme d'une ennemie très réelle, très sérieuse. Et la Bible refuse les deux manières de consoler, de se consoler, que les hommes ont inventées. Je pense qu'on peut résumer la manière dont les hommes se sont consolés en disant qu'ils ont dit, ou bien, quand on est mort, on est bien mort. Alors, on se console en disant, bon, de toute façon, il n'y a plus rien. Quand on est mort, on est bien mort. Ou bien, ils ont dit, quand on est mort, on n'est pas vraiment mort. Immortalité de l'âme. En fait, on vit. Et la Bible ne le dit pas. Comme nous allons voir, la Bible dit qu'on existe, mais même pas qu'on vit. Et il y a une nuance. L'expression d'immortalité est employée seulement pour le don de Dieu qui nous vient par Jésus-Christ, par l'Évangile. Jésus-Christ a mis en lumière l'immortalité par l'Évangile, dit la seconde épître à Timothée. Mais autrement, il n'est pas question d'une immortalité naturelle. Les humains se sont consolés, voyez, d'une ou de l'autre façon, mais la Bible, bien sûr, rejette cette idée que la mort serait le terme absolu de tout, qu'il n'y aurait plus aucune existence. Après la mort vient le jugement. Mais la Bible rejette aussi cette consolation trop facile à bon marché qui minimise la réalité de la mort. Et qui dit qu'en fait, l'âme est immortelle, donc elle ne meurt pas. C'est pas si simple. Le mot de mort a plus de force et de poids aux yeux du Dieu qui nous a créés pour la vie. La mort, conséquence du péché, salaire du péché, est une réalité terrible. Et le message de la Bible, la vraie consolation, n'est pas que la mort finalement n'est pas grand-chose, mais c'est que la mort est vaincue, que cet adversaire puissant et redoutable a été terrassé par le Seigneur Jésus. Vous voyez comment nous pouvons interpréter cette situation qui d'abord étonne de la discrétion biblique. Mais il y a cependant, dans le Nouveau Testament, Dieu sait ce dont nous avons besoin, des textes assez clairs, des données assez claires, et maintenant donc il s'agit de voir quelle doctrine peut se développer. Je commencerai par les doctrines que certains ont mises en avant et que je ne retiendrai pas. Les doctrines rivales de la doctrine évangélique la plus courante que je crois nous faisons bien de maintenir. Certains évangéliques, très minoritaires, un peu marginaux, ont rejeté l'idée d'un état intermédiaire, d'une existence, d'une forme d'existence après la mort et avant la résurrection des corps, la deuxième résurrection. Ils ont rejeté cette idée-là, soit d'une manière absolue, tout à fait nette, soit d'une manière mitigée. En général, c'est d'une manière mitigée. Il y en a très peu qui ont eu la position absolue, mais je la distingue quand même. Certains ont dit, il n'y a rien entre la mort et la résurrection. C'est tout, il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'état intermédiaire. Lorsque l'individu meurt, il n'y a plus à parler de lui jusqu'au moment de la résurrection. Alors de nouveau, le Seigneur lui accorde l'existence. Je connais, bien que ce ne soit pas parfaitement clair et net chez lui, je connais un théologien évangélique américain qui a cette position. C'est un homme connu, j'ai discuté avec lui d'ailleurs, il y a maintenant bien des années, mais enfin je me le rappelle. Les deux arguments principaux sont les suivants. Premier argument, l'unité de la personne humaine dans les perspectives bibliques. L'être humain, nous dit-on, dans les perspectives de la Bible, est une unité psychosomatique. Vous ne pouvez pas séparer le corps et l'âme. C'est un seul tout. Donc la mort du corps, qui se désagrège, n'existe plus. Parce que si le cadavre garde encore un peu sa forme pendant quelque temps, ça ne dure pas très longtemps, on le sait bien. Il y a une dissolution, une disparition du corps. Donc si le corps, la mort du corps signifie sa disparition, cela veut dire que c'est toute la personne qui disparaît pareillement. Autrement, on est obligé de faire une distinction entre l'âme et le corps, et cela, ce n'est pas dans les perspectives bibliques, disent les tenants de cette première position. Puis le deuxième grand argument concerne le temps et l'éternité. Il n'y a pas lieu de parler d'un état intermédiaire, parce qu'une fois que la mort est intervenue, nous ne sommes plus dans le temps. Et entre la mort et la résurrection, il n'y a aucun temps. C'est l'éternité de Dieu, et c'est comme en fait une fraction d'un millionième de seconde, quoi, entre la mort et la résurrection. Il y a du temps qui se passe encore pour ceux qui sont sur la terre, mais ce n'est plus le cas dans l'éternité, dans l'au-delà, donc il n'y a pas lieu de parler d'état intermédiaire. Vous voyez là le raisonnement de ceux qui suivent cette première ligne. Alors je ne pense pas que nous puissions les suivre. Je commence par la critique de leurs arguments et puis je dirai ensuite ce qui dans la Bible me semble trop lésé par cette façon de voir. Que l'homme soit une unité, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité biblique. Que l'homme soit une unité est vrai, mais aussi qu'il est une dualité. Qu'il est composé d'âme et de corps qui ne se confondent pas purement et simplement. Jésus l'a dit très très clairement, Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme !» dit Jésus. « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, le juste juge qui peut condamner. » Donc là, Jésus dit très clairement que la mort du corps peut ne pas être la mort de l'âme, qu'il y a une différence. Donc, ce qu'on nous prétend, en fait, sur l'unité psychosomatique de l'être humain, c'est plutôt une influence des conceptions modernes du XXe siècle. Où l'idée de l'âme comme distincte du corps est devenue, disons, l'objet d'un certain mépris par pas mal d'intellectuels. Mais dans la Bible, bien sûr, il y a l'unité, mais il y a aussi la distinction de l'âme et du corps. Et je pense que nous pouvons dire que c'est précisément le drame de la mort, que ces deux qui doivent être unité se disjoignent. Certes, Dieu veut l'unité psychosomatique, l'âme et du corps fonctionnant comme un seul tout. Mais il s'agit quand même de deux composants, et précisément ce qui arrive à la mort, dramatiquement, c'est que les deux se délient l'un de l'autre. L'autre argument sur l'éternité, il est plus difficile à commenter, mais je lance un avertissement assez général. Méfiez-vous des gens qui vous parle de manière trop assurée de l'éternité, comme opposée au temps. Où est la preuve biblique? En fait, ces idées-là, elles ont l'air très profondes. Ça paraît très pieux, très humble, l'éternité. Et parce que nous sommes tous un petit peu chamboulés, étourdis, lorsque la notion d'éternité prend en quelque sorte place dans notre réflexion. Mais cette idée que le temps n'existe pas pour Dieu, que pour Dieu, tout est d'un seul instant, quand dans l'au-delà, il n'y a plus de temps. Où trouve-t-on ça dans la Bible? Je mets au défi qui que ce soit de trouver dans la Bible des indications nettes dans ce sens. C'est une conception qui vient bien plutôt de la philosophie grecque que de la Bible. Et on en joue alors pour dire un peu n'importe quoi. Alors méfions-nous. Et ça m'amène alors à l'élément biblique, plus directement positif, de ma critique, de cette première façon de penser. Si on dit qu'il n'y a pas de temps, pas d'état intermédiaire entre la mort et la résurrection, on est obligé de traiter beaucoup de passages bibliques comme n'ayant aucun sens, comme représentant de simples façons de parler, mais qui finalement ne nous disent rien. Dans l'Ancien Testament, il est question non seulement pour ceux qui meurent d'être réunis à leur père, mais il est question, par exemple, au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, du roi de Babylone qui descend dans le séjour des morts, qui se fait saluer par tous ceux qui étaient là, dans Ézéchiel 32 aussi. Il y a le roi d'Égypte, il y a toute cette scène, mais elle perd toute signification. On est obligé de dire, ce sont de simples images, c'est quand même un peu léger, un peu facile. Toute la parabole que Jésus raconte sur Lazare et le mauvais riche au chapitre 16 de l'évangile de Luc, elle aussi, elle en prend un drôle de coup quand même. Vous vous rappelez cette histoire, qui est un des textes importants de notre sujet. Jésus raconte, bien sûr c'est une parabole, mais enfin quand même. Jésus raconte donc comment il y avait un pauvre hère, un misérable, un clochard qui s'appelait Lazare, qui couchait à la porte, devant le portail de la belle maison d'un homme riche, qui ne se souciait absolument pas de ce prochain, qui était totalement indifférent, cœur dur, à l'égard de la misère de ce Lazare. Et puis, l'un et l'autre passe le voile, meurt. Et quelle est la situation ? Lazare est recueilli dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis, dans le sein de, pour le langage biblique, ça veut dire tout près. Parce que dans les banquets en Israël, où qu'on ne prenait pas assis, mais couché sur des espèces de sofas, les invités étaient rangés de telle sorte que celui qui était le plus près avait la tête assez près de la poitrine du voisin. C'est comme ça que, lors du dernier souper de Jésus, Jean était couché tout près de la poitrine de Jésus, pouvant chuchoter, avoir un entretien à un moment, cela nous est rapporté. Dans le sein d'eux, donc ça ne veut pas du tout dire la situation de l'enfant dans la grossesse, par exemple. Ça ne veut pas dire un contact physique, mais ça veut dire une grande proximité intime. Alors, il est dans le sein d'Abraham, c'était la manière pour les Juifs de dire le paradis. Dans l'au-delà, parce que les Juifs croyaient en état intermédiaire à l'époque de Jésus, c'était clair pour eux. Alors le pauvre Lazare est recueilli dans le sein d'Abraham, il est tout près d'Abraham, et le riche, lui, il est dans un lieu de tourment, il est cruellement tourmenté, et il demande à travers le grand précipice qui sépare ces deux parts du séjour des morts, il demande au père Abraham que Lazare puisse retourner avertir ses frères qui sont encore en vie sur la terre, pour qu'il n'ait pas un pareil sort. Et toute cette histoire, si l'on refuse l'idée d'état intermédiaire, je dirais que son présupposé de base, qu'il existe quand même une situation dans l'au-delà où se trouvent les justes et les injustes, son présupposé même est si à la base. C'est quand même un peu violent par rapport aux paroles de Jésus. Donc, il ne me semble pas que cette première façon absolue de rejeter l'état intermédiaire soit recevable. Nous allons voir d'autres versets encore dans les minutes qui viennent. Alors, il y a une version qui est mitigée, une version adoucie, qui est beaucoup plus fréquente et qu'on trouve dans divers groupes aussi. Cette version, c'est celle du sommeil des âmes. En fait, Luther était un adhérent, un grand réformateur, Martin Luther, de cette vue des choses. Dans cette conception, donc, il y a une sorte d'état intermédiaire. Il y a bien quelque chose qu'on peut décrire qui se loge entre la mort du corps et la résurrection du corps. Mais ce n'est pas un état conscient. Donc finalement, pour celui qui s'y trouve, c'est comme si c'était un seul instant. C'est un état de sommeil, d'inconscience pure, en attendant la résurrection. L'âme existe, mais c'est pratiquement comme si elle n'existait pas. Vous voyez ? Voilà l'idée dans cette deuxième version de la doctrine que je suis en train de critiquer. Elle est bien sûr moins violente que la première version, donc il y a moins de raisons de la rejeter immédiatement. Elle tient un petit peu plus compte du langage des textes bibliques, mais quand même assez peu. De nouveau, toute l'histoire de Lazare et du mauvais riche devient difficilement compréhensible si vraiment les âmes sont dans une pure inconscience tout au long, dès que la mort survient. D'où vient cette idée que les âmes se trouveraient comme en sommeil pendant toute la période intermédiaire? Elle vient essentiellement de l'expression employée dans la Bible très souvent, plusieurs fois, pour les croyants décédés. Paul parle très souvent des croyants décédés en disant « ceux qui se sont endormis ». C'est fréquent, et puis c'est la traduction tout à fait littérale du terme employé dans l'original de notre Nouveau Testament, la Bible en grec. Alors, c'est de cette façon de parler qu'on tire l'idée « ah bon, alors ils dorment, s'ils se sont endormis, c'est qu'ils dorment ». Oui, ça paraît logique. Mais avec la plupart des commentateurs évangéliques de la Bible, je dis que ce n'est pas le sens, en fait, de cette expression. Comme le montre l'usage, qui est la source, sans doute, de cette façon de parler dans l'Église primitive, l'usage que Jésus fait de cette façon de parler, je crois qu'il est assez clair que c'est un euphémisme, c'est-à-dire une forme adoucie de parler, pour dire que la mort est vaincue. C'est extrêmement clair dans Jean 11, dans le chapitre qui nous rapporte la résurrection de Lazare. Jésus dit à ses disciples, on est venu appeler Jésus, Jésus a un peu traîné, il n'est pas arrivé, on vient lui dire « Lazare est mort ». Et Jésus dit « Notre ami Lazare est endormi, nous allons le réveiller ». Alors les disciples disent « Bon, ben alors s'il ne fait que dormir, pas de problème, alors, etc. » Et alors le texte continue en nous disant, alors là Jésus, voyant qu'il ne comprenait pas, leur a dit « Non, non, il est mort, mais le Seigneur va manifester sa gloire à propos de cette mort ». Donc Jésus emploie l'expression « endormi » pour dire que c'est une mort qui va être vaincue. C'est une mort dont l'aiguillon est enlevé. Une mort qui n'est plus vraiment mort, parce que ce qui fait son pouvoir mortifère lui est ôté et vaincu par celui qui est la résurrection et la vie. Et déjà dans l'évangile de Matthieu, un peu plus tôt que dans l'histoire de Lazare, au chapitre 9, je crois, attendez, je cherche encore, 9, 24, nous avons la même façon de parler de Jésus. Lorsque la fille du chef de synagogue Jaïrus est morte, toute la foule des pleureuses, des joueurs de flûte pour la cérémonie mortuaire était là, tout le monde pleurait et tout. Et Jésus dit, verset 24, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Mais c'est parce qu'il la ressuscite ensuite. Donc Jésus a employé de manière très délibérée cette image du sommeil, mais simplement comme une image, pour dire une mort qui va être vaincue, qui l'est par sa puissance. Et pour les croyants, ensuite, l'aiguillon de la mort ayant été enlevé, c'est cette façon de parler qui a prévalu, pour dire « ce n'est plus vraiment la mort maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en lui », alors on s'est mis à employer l'expression « qui se sont assoupis, qui se sont endormis ». Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont sombré dans l'inconscience, pas du tout. Donc cette deuxième façon de penser doit être critiquée aussi. Je signale d'ailleurs, c'est un petit renseignement historique qui peut vous intéresser, que le premier écrit théologique du jeune Jean Calvin a été consacré à ce sujet. Jean Calvin, le grand réformateur français, donc avait déjà écrit un livre, mais avant sa conversion, un commentaire d'un texte de Sénèque, l'auteur latin. Mais il s'est converti. « Dieu a dompté mon cœur à docilité », dit-il. Très belle formule. Il s'est converti et le premier écrit qu'il a publié sur un sujet donc de doctrine chrétienne, avant de publier ses commentaires, avant de publier son institution de la religion chrétienne, qui est le grand manuel de doctrine, il a publié un texte sur le prétendu sommeil des âmes, pour montrer que ce n'était pas biblique. Je crois que nous pouvons le suivre à ce sujet et venir maintenant donc à la doctrine qui a été couramment enseignée dans notre Église, qui je crois est effectivement celle que la Bible nous recommande d'adopter, nous enseigne. Mais nous allons distinguer entre les croyants et les incroyants. Les croyants chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, et les autres êtres humains. Donc pour les croyants, après la première mort, que faut-il dire? Ils jouissent d'une béatitude consciente avec le Christ. Voilà ce que le Nouveau Testament nous permet de dire avec netteté. C'est déjà suggéré par des passages de l'Ancien Testament. En particulier, il y a un verset de Psaume, « Puis dans la gloire tu me prendras ». Psaume 73, qui va déjà dans ce sens assez clairement dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau que c'est vraiment net, indubitable. Les croyants sont conscients de ce qui leur arrive, ils sont avec le Christ, et du coup, ils sont bien heureux. Et on peut ajouter deux choses que je commenterai ensuite. Ils entrent dans un tel état immédiatement, et apparemment, ils le connaissent sans avoir de corps. Voilà deux points encore que je vais développer. Alors, les textes principaux, je vous les signale, cela nous est suggéré dans l'enseignement de Jésus, dans la parabole de Luc 16, la parabole de Lazare et du mauvais riche. Certes, c'est une parabole, nous n'avons pas à dire qu'automatiquement tous les détails sont à prendre littéralement, parce que dans les paraboles, Jésus utilise un langage imagé. Et rien ailleurs ne nous autorise à penser qu'il peut y avoir une communication entre ceux qui sont du mauvais côté du fossé qui divise et puis ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Mais la parabole quand même présuppose un certain nombre de choses que les Juifs d'ailleurs croyaient à l'époque, et on peut considérer que Jésus met son sceau d'approbation. Lazare, non pas simplement parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu, se trouve dans un état conscient de bonheur. Avec Abraham, là il n'est pas dit avec Christ, parce que c'est Christ qui raconte la parabole, mais nous pouvons nous rendre compte que ça revient au même. Dans le même évangile selon Luc, c'est surtout chez Luc que nous avons des données parmi les trois premiers évangiles, il y a une formule intéressante de Jésus en Luc 20, donc au chapitre 20, verset 38. C'est la discussion à propos de la résurrection que Jésus a avec les Sadducéens, mais en se basant sur le fait que Dieu a lié son nom aux hommes, les a incorporés en quelque sorte à son propre nom, en s'appelant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et il dit, et pour lui, tous sont vivants. Pour lui, on pourrait aussi traduire par lui. Pour lui ou par lui, tous sont vivants. Jésus utilise le présent. Donc, bien qu'il parle de la résurrection, il ne parle pas seulement au futur, tous revivront, mais tous sont vivants. C'est un passage intéressant que tout de suite je mets en rapport avec ce que dit Jésus dans son dialogue à propos de la résurrection de Lazare avec Marthe et Marie. Lorsqu'il dit que celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui reçoit la vie du Seigneur Jésus ne peut pas la perdre. C'est une vie éternelle. C'est une vie qui lui est donnée de manière définitive et la continuité alors peut être assurée. Même passé le voile de la mort, tous sont vivants qui sont dans cette alliance intime avec Dieu. Ceux qui ont reçu cette vie éternelle continuent d'avoir cette vie éternelle. Oui. Donc, c'est cette donnée. J'ai anticipé sur Jean 20, mais je parle encore de Luc 23, 43, la réponse au brigand repentant sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une réponse intéressante, je l'ai mentionné la fois dernière, à propos du règne de Jésus-Christ, qui est établi à la croix même, aujourd'hui, quand tu entreras dans ton règne, aujourd'hui. Mais c'est aussi un témoignage sur ce qui est donné aux croyants après la mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui. Donc, une parole qui est très, très belle et très forte. Alors, dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 11 que nous avons des données. On pourrait peut-être aussi parler, mais c'est un peu moins net, d'acte 7, 59. Étienne, lors de son martyre, lapidé, n'est-ce pas, il est tué à coup de pierre. Hein, c'est ça ce que ça veut dire, lapidé, hein, tué à coup de pierre. Dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il voit le ciel s'ouvrir, en quelque sorte, avec le Fils de l'homme, Jésus, debout pour l'accueillir. Qui s'est comme levé de son trône éternel pour accueillir Étienne qui le rejoint. Donc c'est pas un verset doctrinalement aussi précis que d'autres, mais c'est quand même une très très belle vision. Puis alors dans les épîtres de Paul, il y a plusieurs passages, mais deux principalement, ce sont les deux pour lesquels je pense qu'on peut dire qu'il y a la démonstration la plus certaine. Celui que nous avons lu dit clairement que si nous demeurons dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur. Bien sûr, il est présent par son esprit, mais il est quand même loin dans son corps. Son corps est dans les cieux. notre corps est sur la terre, et ça veut dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Et Paul est très très réaliste. Il n'y a pas présence corporelle de Jésus sur cette terre. Nous sommes son corps, mais dans un sens métaphorique. Nous sommes son corps, mais son corps personnel, ressuscité, glorieux, est dans le ciel. Et les cieux doivent le contenir jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses. Acte 3, 21. Donc, nous sommes loin du Seigneur quant au corps, tant que nous sommes dans ce corps. Et il dit, et nous aimons mieux quitter ce corps et être auprès du Seigneur. Oui. Donc là, l'apôtre montre très bien que pour lui, il y a un état intermédiaire. Si c'était le sommeil inconscient, il ne dirait pas qu'il aimerait mieux quitter ce corps. Oui. Si le temps ne comptait pas, la question ne se poserait pas. Oui. Mais voyez, il met très clairement en balance le fait de demeurer dans le corps ou le fait de quitter le corps. De toute façon, il s'agit de servir le Seigneur, de faire tout pour lui plaire, que l'on demeure dans cette vie ou que l'on passe en sa présence. Et puis cela, nous le retrouvons avec le même balancement, les deux options formant une alternative dans l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens est aussi très intéressante à ce propos. Là, je vous rappelle ce que Paul dit au chapitre 1er, il est emprisonné, hein. Il risque sa vie. Et humainement, il n'est pas assuré de s'en sortir, humainement. Et dans cette situation, alors qu'il est dans les chaînes, et c'était pas des prisons avec télévision, hein, qu'est-ce qu'il écrit dans ce premier chapitre ? Maintenant, comme toujours, verset 20, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. Nous dirions que je suis tiraillé. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Et là, on suit très bien la pensée de l'apôtre, il l'explique avec une entière clarté, deux possibilités. Alors, la meilleure pour lui, égoïstement, ce serait d'être avec Christ, de beaucoup le meilleur. Ce qu'il ne dirait pas si le temps ne comptait pas, ce qu'il ne dirait pas si c'était un sommeil inconscient. Oui. Être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais en même temps, il a le souci de l'œuvre que le Seigneur lui a donnée à faire sur la terre, il a le souci de ses chrétiens qui sont venus à la foi par lui, et il sait qu'il doit encore vivre sur la terre un moment. Donc finalement, c'est ce qu'il choisit. Oui. Il sait que le Seigneur lui permettra de sortir de prison et de continuer encore son ministère. Oui. Toute la logique de ce passage implique nécessairement l'état intermédiaire, un état de béatitude consciente. Alors encore quelques références. 2 Timothée 4:6. Là, c'est dans l'original en fait qu'on se rend compte de la portée de ce verset. Pour moi, me voici déjà offert en libation, le moment de mon départ approche. Donc là, il est tout près de la mort. Là, il a achevé la course, comme il dit. Mais le mot départ, dans l'original, c'est le mot qui a d'ailleurs donné analyse en français, et qui veut dire en grec déliement. Ça vient du verbe qui signifie lier, ligoter, vous voyez, lier. Et c'est analysis, le déliement. Donc il est très clair que pour Paul, l'événement de la mort qu'il évoque ici, c'est l'événement d'un déliement où le corps et l'âme qui étaient liés sur la terre se délient l'un de l'autre. Et dans la seconde épître de Pierre, on a un autre mot avec la même signification qui est le mot exode. Pierre, 2 Pierre 1,14, parle de sa mort aussi, mais comme d'un exode, c'est-à-dire d'une sortie. Son être intérieur sort, voyez, de cette tente qu'est l'existence présente, le corps actuel. Tout cela va dans le sens de cet état intermédiaire. Hébreux 12, verset 13, peut être cité également, qui dit que nous nous sommes approchés, nous les croyants, alors de la montagne de Sion, de toute la série des réalités spirituelles qui forment un ensemble sous le régime de la Nouvelle Alliance. Mais, plus spécialement, dit le texte, nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, de myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés, ce sont tous les croyants qui sont comme bénéficiaires du droit d'aînesse par rapport à l'héritage du salut. Pour comprendre l'expression, il faut sans doute revenir à tous ces textes de l'Ancien Testament où le droit d'aînesse, pensé à Jacob et Ésaü, correspond à l'élection divine, à l'héritage de la promesse. Les premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Alors par rapport à la doctrine de l'état intermédiaire, c'est cette clause qui est à peu près équivalente au premier-né inscrit dans les cieux en fait, mais qui est plus précise, qui est l'élément probant. En nous joignant à Jésus-Christ, nous agrégeons à l'Église, qui est l'assemblée des premiers-nés, et en particulier de cette part de l'Église qui est déjà parvenue à la perfection, qui est formée des esprits des justes, qui se trouvent dans les cieux. Il y a une communion qui existe, non seulement avec tous les croyants sur la terre aujourd'hui vivants, mais aussi avec tous ceux qui nous ont précédés. C'est toute la nuée de témoins dont parle la même épître, juste un peu avant, au début du chapitre 12, la nuée de témoins qui nous regarde, qui suit notre combat spirituel, se réjouit avec toutes les victoires, qui est là pour nous encourager, en fait. Donc, vous voyez, encore un texte qui montre que les croyants, après la mort, ne sombrent pas dans un sommeil inconscient, mais ce sont les esprits des justes parvenus à la perfection. Et puis, dans l'Apocalypse, trois passages qui vont toujours dans le même sens. Apocalypse 6, verset 9, que j'ai mentionné déjà la dernière fois, où les âmes sous l'autel sont les âmes de ceux qui sont morts en martyrs pour Jésus et qui se trouvent dans le ciel, sous l'autel céleste, et qui demandent au Seigneur de hâter son retour. Et il leur est dit d'attendre encore un peu que le nombre de leurs compagnons de service soit complet. Donc c'est bien clair qu'ils sont conscients. Ils parlent au Seigneur. Ce sont des âmes dans le ciel. Puis Apocalypse 14, verset 13, a une proclamation solennelle. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Dès à présent, il veut dire il n'y a pas à attendre la résurrection, la fin du monde. Dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur. Et puis, finalement, il y a ce texte que nous avons considéré la dernière fois, au chapitre 20, où il est dit que les âmes de ceux qui ont rendu témoignage au Seigneur et jusqu'au sang, vivent et règnent avec lui pendant les 1000 ans jusqu'à la deuxième résurrection, que nous avons interprétée comme la résurrection corporelle. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de passages, finalement. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un enseignement aussi fréquent que celui de la résurrection lui-même, mais nous n'avons aucun doute, me semble-t-il, à laisser battre dans notre cœur. C'est quand même bien dit, clairement dit. Les croyants peuvent être assurés d'être avec le Seigneur, heureux dès à présent, s'ils meurent en lui, c'est-à-dire dans la foi. Ils vivent et règnent avec lui. Alors immédiatement, je reviens sur ces deux points, immédiatement exclut l'idée d'un purgatoire. Vous savez que dans la tradition catholique, s'est glissée l'idée qu'avant de connaître la béatitude céleste, les âmes doivent expier un certain nombre de péchés dans un lieu de souffrance qui s'appelle le purgatoire. Ce qui veut dire le lieu de purification. C'est ce que veut dire le mot purgatoire, simplement. Ceux qui sont dans le purgatoire, ce sont des gens qui sont sauvés dans la théologie catholique. Ceux qui vont en enfer ne vont pas au purgatoire. Mais c'est un lieu de souffrance, la béatitude n'est pas connue tout de suite. Il n'y a rien dans la Bible qui autorise une telle pensée. Il faut bien savoir comment elle est née, en tout cas une des racines de cette doctrine. C'est le sentiment d'injustice que les chrétiens ont facilement, lorsque quelqu'un dont on dit devrait payer quand même, ne paie pas pour ses fautes. Dans la discipline de l'Église, il y avait des gens qui avaient renié la foi pendant un temps, sous la pression des persécuteurs, qui étaient réintégrés, mais il fallait qu'ils payent. Qu'ils soient tout un temps sous un régime de sanctions. S'ils mouraient, à ce moment-là, au lieu de payer en quelque sorte leur dette, ah, les autres qui avaient tenu bon, qui avaient subi toute la torture des persécuteurs, disaient, c'est pas juste. S'ils meurent, ils sont tout de suite heureux, bien heureux avec le Christ. Ah non, il faut qu'il y ait un temps pour qu'ils payent quand même, de l'autre côté. C'est comme ça, principalement, sans doute, que la doctrine du purgatoire s'est formée. Puis il y a l'idée que, instantanément, nous ne sommes pas mûrs pour toute la béatitude céleste, que nous avons besoin quand même d'un temps pour être purifiés. Mais la Bible ne dit rien de cela. La Bible ne dit rien de cela, et je pense que c'est vraiment le cœur humain dans sa perversité qui se manifeste par de tels genres de pensées. On revient sur la pure gratuité du salut, des dons de Dieu. Nous sommes toujours des légalistes, spontanément. Alors nous y revenons toujours, il faut payer. Alors que c'est le Seigneur qui a tout payé pour nous. Et puis, pourquoi est-ce qu'un faudrait-il au Seigneur un temps pour nous purifier plutôt que de manière instantanée? Il nous purifiera une fois que nous serons dégagés de toutes ces solidarités dans le monde qui font que nous sommes encore souillés de bien des manières. Le Seigneur peut nous purifier d'un seul coup. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens quand même, que nous devions écarter toute idée de progrès dans l'état intermédiaire comme dans l'éternité. Précisément, l'éternité n'est pas, me semble-t-il, d'après la Bible, un pur instant où tout est bloqué en quelque sorte. Et quand le Seigneur évoque la responsabilité de 10 villes pour celui qui a bien servi, il montre qu'il y aura des choses à faire, et donc une possibilité de croissance. Mais nous serons purifiés d'emblée entièrement et nous serons avec le Seigneur dans cette béatitude. Puis deuxièmement, donc, est-ce dans un corps ou sans un corps? Certains se sont dit, mais nous ne réussissons pas à vivre sans un corps. Nous serions nus, et c'est trop désagréable, une âme nue. Donc, sans doute, il doit y avoir un corps intermédiaire dans cet état intermédiaire. Pas encore celui de résurrection, mais un corps intermédiaire. Mais moi, comme la plupart, je pense que c'est une complication inutile. Que la Bible ne suggère à aucun moment un autre type de corps avant le vrai corps ultime. La Bible ne le suggère pas, elle parle d'esprit ou d'âme, les esprits des justes parvenus à la perfection, les âmes sous l'autel. Jamais elle ne mentionne un corps, donc je ne pense pas qu'il faille dire qu'il y a un corps. Et alors cet état de nudité pour l'âme, je pense qu'on peut dire que la gloire du Seigneur qui nous sera donnée, qui sera donnée à notre âme dans cette proximité du Seigneur Jésus, sera un vêtement suffisant pour que nous n'ayons pas l'impression d'être nus. Notre vocation ultime, ça c'est bien ce que Paul dit dans la première partie de 2 Corinthiens 5, c'est d'être revêtu d'un corps de résurrection que Dieu nous donnera. Mais avant que nous bénéficions de cette plénitude de l'édifice céleste préparé pour nous, nous en aurons une sorte d'avant-goût dans un vêtement de gloire et non pas un corps. Je crois que c'est la manière la plus simple de répondre à la question. Maintenant, si quelqu'un voulait supposer qu'il y a un corps intermédiaire, ce ne serait pas une hérésie. Hein, mais simplement, je ne vois pas dans la Bible de raison suffisante pour affirmer. Et alors, pour les incroyants, qu'est-il dit? Il en est dit beaucoup moins, c'est normal, parce que les croyants s'intéressent premièrement à ce qui sera leur condition. Et c'est à cette question que le Seigneur répond d'abord. Mais il y a quand même des données pour les incroyants qui nous permettent de dire que pour les incroyants c'est symétrique. De même que les croyants sans le corps goûtent déjà l'avant-goût de leur état final, de même les incroyants sans le corps goûtent l'avant-goût de leur état final, qui est amer dans leur situation. Les textes formels sont Luc 16 de nouveau, puisque le mauvais riche connaît une souffrance alors que ce n'est pas encore le temps de la résurrection et du jugement. Il y a ce texte-là, et puis il y a deux autres passages, un dans les épîtres de Pierre. Dans les épîtres de Pierre, il y a un passage tout à fait net et un autre que j'interprète en tout cas comme ça avec un certain nombre de théologiens. Le passage qui est tout à fait net se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Pierre évoque le châtiment des villes de Sodome et de Gomorre. Et il dit que Lot, au milieu des sodomites, torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait, mais que le Seigneur ensuite a effectué ses jugements. Et voici le verset 9. « C'est donc que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver, et on pourrait même traduire, emprisonner les injustes pour les châtier au jour du jugement. » Donc, ce passage montre qu'en vue du jour du jugement, les impénitents, ceux qui sont comme les habitants de Sodome, sont gardés, comme dans une prison, en vue du jour du jugement. Ça, c'est un texte qui semble tout à fait net sur cet état intermédiaire. Et autrement, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, il est question, selon l'interprétation que je retiens de ce passage, des esprits, des contemporains de Noé, qui se moquaient de lui alors qu'il construisait l'arche. Ces contemporains de Noé, qui étaient pervertis, orgueilleux, et il est dit que Jésus, en esprit, je comprends, en la personne de Noé, a prêché à ces gens-là, mais ils sont présentés maintenant comme des esprits en prison. Les esprits en prison qui avaient refusé la prédication qui leur avait été adressée. Alors, si c'est bien cette interprétation qui peut être retenue, nous avons un autre témoignage sur le fait que les impies sont comme en prison, dans un état intermédiaire déjà douloureux, en vue du jour du jugement. Alors, si telle est bien la signification, on peut ajouter encore un trait à propos du sort des impies, c'est que nulle part la Bible ne suggère qu'il puisse y avoir une deuxième chance de salut pour eux. Et c'est ce que me semble exclure le texte d'Apocalypse 20, lorsqu'il dit que le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que la fin des 1000 ans soit accomplie. Ils n'ont pas atteint à cette vie que par la première résurrection, la résurrection spirituelle, les croyants ont reçu. Dans cet état intermédiaire, il y a une confirmation de la voie choisie sur la terre. Et ce sera ma conclusion. Toute cette doctrine me semble souligner la solennité de notre passage sur la terre. Le temps de vie qui nous est donné sur la terre, et c'est son but même dans le plan de Dieu, détermine ce qui sera notre destinée après la mort. Déjà dans le temps intermédiaire et pour toujours ensuite. Voilà ce que la Bible nous oblige à dire avec clarté et sérieux, parce que chacun, bien sûr, est rapporté à sa propre situation. Voilà donc un résumé de cette doctrine biblique concernant ce qui suit notre mort. Alors nous avons quelques minutes encore maintenant pour quelques questions, un petit échange, si vous le voulez. Pour des livres apocryphes, je ne sais pas, il s'appuie pour la prière sur les morts, pour les morts, en faveur des morts, sur un passage des Maccabées. Donc, effectivement, livre apocryphe que les Juifs n'ont jamais reconnu comme un livre inspiré par Dieu, même si c'était un livre qui était un livre précieux pour eux, un livre dit de leur histoire, et un livre pieux. Ils n'ont jamais reconnu comme inspiré de Dieu dans leur canon, mais après bien des tâtonnements, l'Église catholique au Concile de Trente, après la Réforme, l'a déclaré canonique. Donc il s'appuie pour la prière en faveur des morts. pour le purgatoire, il y a dans les écrits du judaïsme du premier siècle, parce qu'il y avait beaucoup de courants, c'était mélangé, il y a des choses qui vont dans le sens de cette doctrine du purgatoire. Mais à ma connaissance, pour autant que je me rappelle maintenant, ce n'est pas dans des écrits, des livres apocryphes qu'ils appelleraient de deutérocanoniques aujourd'hui. Longtemps, ils se sont appuyés sur le texte d'un Corinthiens 3 à propos du feu qui éprouve l'œuvre de chacun. Et si quelqu'un a construit sa vie avec des matériaux sans valeur, de la paille, du bois, le feu consumant tout cela, il est dit qu'il sera sauvé comme au travers du feu. Mais beaucoup de commentateurs aujourd'hui, je catholiques y compris, disent « mais en fait ce feu, il est tout à fait opposé à celui du purgatoire ». Ce n'est pas un feu de purification qui dure pendant un certain temps, c'est le feu qui met à l'épreuve l'œuvre de chacun et qui dit bien que même si quelqu'un a construit une vie de très peu de valeur devant Dieu, s'il a construit quand même sur le fondement, s'il a mis sa foi en Jésus-Christ, il sera sauvé. Il sera sauvé comme au travers du feu, il n'aura pas de récompense particulière, mais l'assurance du salut n'est pas remise en cause. Donc, c'est un texte qui n'est pas du tout dans l'axe du purgatoire. Aujourd'hui, les théologiens catholiques que je peux rencontrer, vous savez, ne parlent plus du purgatoire, pratiquement pas. Bon, je ne dis pas que la doctrine officielle l'ait éliminée et que l'aile droite dans le catholicisme l'ait abandonnée, même si elle est discrète, même elle. Mais le gros des clercs, curés, évêques et théologiens dans l'Église de France catholique, ne parlent plus jamais de purgatoire, on ne les entend plus jamais en parler. Ce qui, d'ailleurs, entraîne quelques difficultés financières. Je me rappelle mon père racontant que dans son camp de prisonniers, là où il avait de nombreux co-prisonniers, officiers français, prêtres, et où il a eu donc des multitudes d'entretiens théologiques, de débats, de dialogues pendant des années, il y en avait un qui lui disait « Oh, vous, si vous aviez seulement quelques mètres carrés de purgatoire, vous n'auriez plus de difficultés financières. » Mais c'était une forme de catholicisme qui maintenant a pratiquement disparu dans notre pays en tout cas. Monsieur Weinberg. Et puis monsieur, je ne vous ai pas donné la parole, mais vous aviez aussi une question. Ouais.
Vous avez eu des défis de trouver un passage, mais je ne vais pas le voir. Si je me trompe, à comprendre, il est écrit, il y a tout comme un jour.
Oui.
En fait, on a notre rapport du temps et pas celui de Dieu.
Oui. Oui, effectivement, ce texte, donc dans la seconde épître de Pierre au chapitre 3, est souvent cité, mais moi il me semble qu'il ne dit pas du tout que l'éternité soit un pur instant. Il montre que Dieu n'a pas notre mesure du temps, que lui, alors je ne dis pas que son éternité soit simplement un temps infiniment allongé, mais la parole pourrait valoir même si c'était seulement ça. Pour lui, il a tout le temps qu'il veut, donc 1000 ans sont comme un jour. Et il voit tellement dans le détail qu'un jour c'est comme 1000 ans aussi. Il maîtrise tout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune succession qui soit valable pour lui, que tout soit un pur instant, comme on l'a trop fait dire à ce passage, me semble-t-il. Oui, monsieur Weinberg.
Oui, cette question dans le prière que le Seigneur a adressée au Jésus-Christ.
Oui.
Si on est d'accord que ce sont des esprits qui sont permis, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de temps d'âme et esprit dans ce cas-là? Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur
Oui, alors ça c'est la question de toute l'interprétation de ce passage. Je crois que dans la classe de l'Institut biblique que nous avions il y a quelques années, nous en avons traité une fois. Je pense que Christian, je te rappelle. Alors je résume. Ce texte est compris de manière très très diverse. Si on y voit un déplacement du Seigneur dans le séjour des morts, après sa mort, précisément dans l'état intermédiaire, entre sa mort et sa résurrection, si on y voit donc une sorte de voyage auprès des morts du Seigneur Jésus après la croix, alors il y a plusieurs façons de comprendre. Une façon de comprendre, il a été offrir une seconde chance à des impies qui étaient dans l'état intermédiaire, mais qui ont pu être sauvés. Mais c'est pas dit. Il n'est pas du tout dit qu'il a prêché l'évangile et qu'ils ont été sauvés. Pas du tout. Une autre façon de comprendre, c'est qu'il a été simplement leur proclamer sa victoire pour leur montrer qu'ils étaient perdus. En gros, dans la tradition luthérienne, ça a été la façon de comprendre. Il a été proclamé qu'il avait vaincu le diable et la mort, mais ça ne faisait que confirmer dans leur perdition ces hommes. Puis d'autres ont pensé qu'il ne s'agissait pas tant des humains que des esprits au sens esprit angélique ou démoniaque, qu'il a été proclamé sa victoire à ces esprits-là et non pas à des esprits humains. Alors là, se branche la question âme-esprit. Je crois que les deux termes, âme ou esprit, qui sont très souvent quasiment synonymes dans l'écriture et qui ne désignent pas des parties différentes de l'être humain, d'après ce que je crois pouvoir montrer, sont utilisés l'un ou l'autre, et c'est le cas d'ailleurs dans le judaïsme du 1er siècle aussi, pour ce qui n'est pas le corps et qui subsiste dans l'état de mort. Et il est intéressant que dans les passages que je vous ai donnés, il y en a deux qui emploient le mot esprit et deux qui emploient le mot âme. Il y a les deux de l'Apocalypse qui emploient le mot âme, et il y a celui de l'Épître aux Hébreux chapitre 12, les esprits des justes parvenus à la perfection, et celui d'un Pierre 3 qui emploie le mot esprit. Pour moi, il s'agit des esprits des humains. Mais, alors c'est là que je ne me joins pas à cette première ligne d'interprétation que je viens de résumer, est-ce que c'est vraiment un voyage du Christ après la croix, entre la croix et la résurrection? Là, de nouveau, rien ne le dit de manière précise, et on peut comprendre, c'était le cas de Théodore de Bèze, par exemple, dont nous chantons les psaumes, du ministère de Jésus par Noé, car Noé parlait par l'Esprit du Christ, au temps du déluge. Et si les esprits sont en prison maintenant, ils ont entendu la chose quand ils étaient dans leur corps, au moment du déluge. On peut faire un tel anachronisme quand on parle. Si vous allez à Lille, je vois la maison où est né le général de Gaulle. Quand il est né, il n'était pas général. Mais on l'appelle le général de Gaulle. On fait un anachronisme, tout naturellement. Les esprits en prison, ce sont les esprits qui sont en prison maintenant, mais auxquels Jésus, en esprit, par la personne de Noé, a prêché, quand ils étaient rebelles, alors que le déluge semblait tarder et que Noé construisait l'arche. Oui. Alors ça me paraît la façon la plus simple de comprendre ce texte-là. Il y a encore d'autres fioritures, mais je vous ai donné les principales interprétations. Donc, il me semble que ça n'implique pas une deuxième chance. Alors, en ce qui concerne donc les croyants et incroyants avant la venue de Jésus-Christ, donc dans l'Ancien Testament, il y a de nouveau deux thèses. La thèse selon laquelle ils étaient déjà dans un état intermédiaire et déjà marqué par la joie ou la souffrance, mais qu'il y a quand même eu un changement au moment de l'œuvre du Christ pour eux. Et que les justes en particulier ont été rapprochés pour être avec Christ. Ils étaient en quelque sorte dans le sein d'Abraham et puis il y a eu un changement. Et d'ailleurs, certains ont interprété 1 Pierre 3 aussi de cette proclamation aux justes de l'Ancien Testament pour leur dire « Maintenant, ça y est, vous pouvez monter plus haut. » Ils étaient déjà bien heureux, se reposaient de leurs œuvres, mais un supplément avec l'œuvre de Jésus-Christ accomplie. Et c'est une opinion qui me paraît permise, mais enfin, c'est pas celle que je retiens parce qu'elle complique les choses. Et la plupart des protestants évangéliques ont pensé que pour les croyants de l'Ancien Testament, c'était déjà comme pour nous. Déjà la présence de Dieu, la gloire dans le ciel. Et le psaume 73, donc cette parole, puis dans la gloire tu me prendras, qui semble se référer au terme du pèlerinage terrestre, est le texte de l'Ancien Testament qui va le plus clairement dans ce sens. Il est question de la prospérité des méchants dans ce psaume, vous le savez, de la tentation que ça a constitué pour le psalmiste qui a failli glisser et tomber spirituellement donc. Et il dit « J'étais stupide et sans connaissance, avec toi j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Puis dans la gloire tu me prendras, autre traduction possible. » Ça semble être bien le terme du pèlerinage terrestre. Nous sommes conduits sur la terre par le Seigneur qui nous tient la main. Voilà la foi que le psalmiste exprime. Et en liaison avec cette expression, donc il y a quelques autres versets, mais il y a aussi l'histoire d'Enoch qui a marché avec le Seigneur et puis le Seigneur l'a pris. Et puis Élie qui est monté au ciel dans le char de feu de l'Éternel. Ces données semblent bien suggérer qu'ils ne sont pas laissés dans un étage inférieur en attendant la venue de Jésus-Christ. Que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, mais par avance, lorsqu'il meurt, les croyants de l'Ancien Testament ont été reçus dans la gloire même. C'est comme ça que je pense plus sobre de prendre les données bibliques. Oui, Monsieur Jacques Richard.
Il y a une question qu'on m'a souvent posée, et donc je me demande si elle n'a pas, si elle ne peut pas ouvrir la porte à une prière pour les morts, ou un intérêt pour la communication avec ceux qui ont disparu. C'est de savoir si ceux qui nous ont quittés, qui ont gagné, puisqu'ils sont conscients, ont une pleine connaissance de ce qui se passe, de ce qui continue de se passer sur la terre, de savoir si, par exemple, leur prière pour la conversion d'un membre de leur famille n'a pas été exaucée de leur moment, et qui est exaucée après leur décès. S'ils en sont en quelque sorte informés, ce genre de préoccupation, de savoir en quelle mesure ils participent à notre vie et à la vie de l'Église, et en quelque sorte à la vie du monde, quand ils sont dans la gloire et la présence de Dieu.
Alors, je vous réponds sans pouvoir être très dogmatique, parce que je pense que l'Écriture ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais je réponds essentiellement un oui dangereux à cette question. Je crois qu'il y a des indices qui sont favorables à cette idée, qu'ils savent, qu'ils sont informés et qu'ils s'intéressent. Essentiellement, cette image de la nuée de témoins, ils en font partie. L'auteur aux Hébreux, au début du chapitre 12 donc, de son livre, montre que notre course dans la carrière qui nous est ouverte les intéresse et qu'ils la suivent en quelque sorte. Et d'autre part, donc, cette prière des âmes sous l'autel, qui s'inquiète du déroulement de l'histoire, qui s'y intéresse. Puis on peut dire que s'il règne avec le Christ aussi. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux de le penser ça. Parce que cela peut nous suggérer un effort de communication qui est interdit, bibliquement, avec eux. Alors ça, je vais y répondre en supplément. Mais... Donc c'est dangereux parce que ça peut nous tenter d'établir une communication, de nous sentir plus proches d'eux que du Seigneur. En disant, voilà, il y a un tel qui me suit. Alors ça peut devenir l'occasion d'une confiance en des intercesseurs humains, comme cela a gangrené la piété catholique. Et vraiment, ça c'est tout à fait anti-biblique, c'est clair. Alors je suggère que s'ils sont informés, s'ils suivent ce qui se passe... Car je crois qu'on peut le dire, c'est toujours par Jésus. Et ils vivent et règnent avec lui, ils ne règnent pas indépendamment. Ils voient les choses par les yeux de Jésus. C'est Jésus qui est le médiateur entre le ciel et la terre. Et donc nous devons nous dire que si ça a quelque chose, c'est que Jésus leur a permis de le savoir. Jésus filtre, je ne sais pas, dosage, je ne sais rien, mais tout passe par Jésus. Ce qui fait que nous pouvons demeurer très certains que c'est Jésus qui est proche de nous, suprêmement proche. Alors il donne à ceux qui nous ont aimés, qui sont de l'autre côté, ce qu'il leur est bon de savoir. Ils vivent, donc ils peuvent savoir quelque chose et se réjouir de la conversion de quelqu'un pour qui ils ont prié, oui, mais selon que Jésus le leur donne. Et voyant tout cela avec les yeux de Jésus, je pense qu'ils peuvent être bienheureux. De Dieu lui-même, il est dit le Dieu bienheureux. Malgré tout ce qu'il voit, malgré son horreur du mal, il sait si bien comment tout son dessein intègre le mal, le fait servir à sa gloire et va aboutir à la plénitude du salut, qu'il peut rester le Dieu bienheureux. Il est appelé comme ça dans la première ou la deuxième chapitre de l'Épître à Timothée. Donc, si nous voyons les choses en Dieu, par ses yeux, et selon la mesure qu'il juge bonne pour nous, je crois que nous pouvons être bienheureux. Mademoiselle Jean-Charles, oui. Y a-t-il des enfants? Alors, je le crois, oui, vraiment, je crois que on peut dire que toute l'attitude dans la Bible de Dieu à l'égard des petits-enfants, qui ne connaissent pas encore le bien et le mal, au sens qu'ils n'ont pas le pouvoir d'autodétermination, nous permet de dire qu'ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, qu'ils sont inclus parmi les bénéficiaires dans le plan de Dieu. Dieu se soucie des enfants, on le voit à la fin du livre de Jonas, parce que je crois que ceux qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, dans la fin du livre de Jonas, c'est tous les petits-enfants dans cette ville. Dieu a un cœur particulièrement touché, et donc c'est pour moi une assurance qu'ils sont mis au bénéfice du salut, mais sans doute ne sont-ils pas, une fois dans l'éternité, à l'état d'enfant. Dieu leur accorde instantanément de développer leur potentiel humain, lorsqu'ils accèdent dans cette gloire éternelle. Leur seul grand désavantage par rapport aux nôtres, qui ne sont pas passés de l'autre côté du voile dans l'enfance, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de servir le Seigneur sur la terre, de lui montrer la fidélité à travers les épreuves, de rendre témoignage de lui. Ça, c'est notre privilège, qui est associé à des tentations, mais nous pouvons en rendre grâce au Seigneur. Mademoiselle Béatrice Sorante, et puis je pense que ce sera la dernière question, puisque l'heure là est passée. Oui. Alors, je n'ai pas d'expérience de première main. Je n'ai pas parlé à quelqu'un qui avait connu ces expériences de décorporation, de rencontre avec un être de lumière, entre guillemets, etc. Je signale qu'il y a eu, dans les années 70, lorsque le livre de Raymond Moody, qui est le premier à en avoir beaucoup parlé, a paru, un article par le secrétaire de rédaction, M. Arnera, de Tictus à l'époque, sur le sujet. Lui, il avait fait quelques recherches, donc on peut retrouver dans la collection Ictus un article développé, puis quelques réactions de lecteurs, etc. Moi, je crois que le point le plus important, c'est de dire, ces gens-là ne sont pas morts. Ils ont été, sans doute, très près de la mort, mais ils ne sont pas morts. Et donc, on ne doit pas prendre leur témoignage comme un témoignage sur la mort elle-même. Et dans la mesure où il n'y a pas seulement des phénomènes psychiques qui se sont produits, ce qui peut expliquer une grande partie de ces expériences qu'ils ont faites. Je ne suspecte pas leur sincérité, hein, mais dans la mesure où ce n'est pas seulement psychique, méfions-nous des interférences avec des puissances démoniaques. Si Paul nous dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière, je pense qu'il peut se déguiser en être de lumière, entre guillemets. Bon, certains sont revenus sur la terre plus aimants, plus serviables, mais même là, ne soyons pas... Satan est très habile. Par les œuvres, suggérer que par les œuvres on peut être sauvé, c'est vraiment du poison pour les âmes. Donc, moi je serais très réservé. Mais, cela dit, il se pourrait que dans certains cas, Dieu ait accordé à des gens, comme dans cet état qui n'était pas la mort, une certaine perception de son amour pour les humains. Est-ce qu'ils l'ont bien interprété ? Ça, encore à voir. Voilà, très, très, très résumé, grosso modo, comment je réagirais. Voilà, merci bien pour toutes vos questions.